Radio Campus est partenaire du festival Latitude Contemporaine du 5 au 24 juin. Retrouvez les informations et les sons du festival sur 106.6 FM chaque mercredi à 16h30 avec des membres et des invités de l'équipe des Latitudes et des interviews et reportages réalisés par notre journaliste Sandra Mosilovic. Tout le programme du festival est sur le site latitudecontemporaine.com. Voilà, bien, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Donc, je voudrais signaler la présence de Maria Carmela Mini, qui est directrice de Latitude Contemporaine. Bonjour Maria Carmela Mini. Et puis aussi de l'artiste Kubra Kademi, donc qui nous vient d'Afghanistan, mais qui est en France depuis quelque temps quand même. Bonjour Kubra.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, donc, on va présenter cette édition. Alors, je ne sais pas si elle a un numéro, ce qu'on donne encore des années aux éditions du Festival Latitude Contemporaine.
On peut encore donner l'âge de l'adolescence, 16 ans, ça va.
16 ans, ça va. Et donc, un festival qu'on suit depuis le début et dont on peut témoigner de l'évolution et donc de cette équipe qui est depuis un bon moment, hein, un peu, bon, qui n'a pas trop bougé, en fait, l'équipe artistique.
L'équipe artistique, c'est moi, puisque c'est moi qui fais la programmation.
Ouais.
Et puis après, j'ai une équipe quand même de 10 personnes qui m'accompagnent dans la mise en place de ce festival. Et puis, pas seulement de ce festival d'ailleurs, avec des actions de médiation et d'autres projets.
Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion la semaine prochaine d'entrer peut-être dans les projets culturels de l'association avec Alice. Et là, aujourd'hui, on va parler de ce festival qui démarre aujourd'hui, puisque c'est l'inauguration officielle ce soir à 18h30 à la Maison Folie Voisin, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc, avec une soirée qui va se poursuivre, soirée d'ouverture.
Oui, et donc, comme j'ai décidé que 16 ans, c'était l'âge de l'adolescence,
oui,
on ouvre ce festival avec justement un portrait d'adolescents, donc à la fois les jeunes de la LEFPA, donc qui sont placés dans des foyers sous la protection de l'enfance. Et puis, donc ça, c'est un projet qui est le résultat de plusieurs heures d'atelier, donc qui ont été menées par un artiste de la région qui s'appelle François Le Willy. Et puis, l'ouverture officielle avec un collectif de Portugais qui ont mis en place un projet qui s'appelle La Gâchette du Bonheur et qui ont travaillé pendant quelques jours avec des jeunes adultes de la métropole. Et donc ces 12 jeunes adultes sont sur le plateau et vont se révéler en fait à nous. Et ça, je le souhaitais vraiment, que ça soit un festival qui soit ouvert avec la jeunesse comme point de mire et aussi comme miroir de notre société un peu.
Alors ce festival, ce soir, c'est à la Maison Folie Voisin, mais il y a beaucoup de lieux qui sont partenaires et où on va retrouver des spectacles de cette programmation 2018.
Tout à fait, oui. Donc, on le disait, la Maison Folie d'Oisem, la Rose des Vents qui a pris un temps d'avance puisqu'ils ont démarré en avant-première, hier avec All the Dragon, donc un collectif là d'artistes belges, une très belle installation et interactive avec le public. Et puis ensuite à la Condition Publique, à la Gare Saint-Sauveur, à l'Opéra, le Grand Sud, et puis à Valenciennes, au Phénix, et puis
à Douai,
Au Tandem, donc Douai.
Et après en Belgique.
Et à Valenciennes, au Phénix, et au Vivat Armentières, et en effet chez nos voisins belges à Courtrai, à Bouda.
Voilà, donc c'est toujours l'annonce de l'été, hein. C'est un moment très agréable pour tout le monde.
Oui, en plus il fait chaud aujourd'hui,
là,
c'est
chaud,
presque
ouais,
l'été.
On est bien. Donc, à combien on peut évaluer le public concerné, enfin de spectateurs?
Alors, si je regarde les chiffres de l'année dernière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de spectacles qui sont gratuits, en particulier à la Gare Saint-Sauveur. Et puis après, il y a d'autres projets aussi qui sont gratuits. Au LAM aussi, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, au Musée d'Art Moderne de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, tous ces, évidemment, projets gratuits, on ne peut pas quantifier le public en amont, puisqu'on n'a pas de billetterie. Mais les chiffres de l'année dernière, on était aux environs de 10 000. Personne, en fait.
Ça veut dire que d'une année sur l'autre, ça évolue comment ?
Ça évolue, je dirais, d'à peu près 15% du public.
Avec des gens qui sont vraiment dans un festival, c'est-à-dire qui sont là régulièrement, tous les jours, j'allais dire.
Absolument, oui, oui. Il y a vraiment les aficionados de l'attitude contemporaine qui voient quasiment tous les spectacles.
Il y en a que je reconnais depuis 12 ans, 16 ans presque. Oui, 16 ans. Oui. Donc voilà, on peut dire qu'il y a des gens qui sont accros, fidèles, et puis il y a des jeunes qui, soit ils viennent parce qu'ils ont un âge où ils ont envie de découvrir, soit ils viennent aussi épaulés peut-être par les projets dont on parlait tout à l'heure de médiation culturelle.
Tout à fait, oui. Donc. En effet, enfin, vous aurez l'occasion d'en parler avec Alice Gentil la semaine prochaine, mais on fait énormément de projets de médiation. Et donc, en effet, que ça soit avec l'École des Beaux-Arts, que ça soit avec d'autres associations, des maisons de quartier, etc. On fait un énorme travail. D'ailleurs, il y a aussi à l'ouverture, il y aura l'inauguration d'un projet qu'on a fait avec la clinique de Lautréamont. Projet de sérigraphie sur le bonheur que j'ai pu découvrir tout à l'heure et vraiment c'est très très beau. Donc là aussi c'est un public qui n'a pas accès évidemment facilement à des projets culturels puisque ce sont des jeunes adolescents qui sont donc à la clinique de Lautréamont et qui sont suivis pour des raisons médicales et donc ils seront là ce soir et on est très heureux.
Voilà, alors c'est vrai que le festival L'Attitude Contemporaine c'est aussi une façon de croiser les publics puisque les lieux culturels où se jouent les spectacles sont aussi avec leur propre public, voire même ce festival entre dans leur programmation, voire même dans leurs abonnements.
Absolument, donc et ça je tiens à remercier fortement tous nos partenaires parce que si aujourd'hui le festival est ce qu'il est et si justement il y a comme ça un public qui gonfle d'année en année, c'est aussi parce que nos partenaires nous suivent et c'est vraiment une relation très complice que j'ai avec eux hein, et avec chacun des directeurs des lieux où on est présent et donc c'est des discussions, des échanges, et puis ça se passe plutôt très très bien.
Et puis chaque lieu est typique souvent. Hein. Je prends par exemple un spectacle qu'on peut accueillir à l'opéra. Là, effectivement, je ne le vois pas trop ailleurs.
Ah, ça, c'est sûr, parce que sinon, il n'y a pas de salle pour faire rentrer ce spectacle. Donc c'est Corpeur de Sacha Waltz, en effet. Et la scénographie est juste monumentale. Ben donc, oui. En effet. Et puis, je pense que Sacha Waltz, elle peut remplir trois représentations à l'opéra sans problème.
C'est aussi une façon pour le public qui va d'un lieu à l'autre de découvrir les espaces culturels et puis toute leur diversité aussi de programmation.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, en fait, c'est ce qui me plaît énormément dans l'attitude contemporaine, c'est la diversité des lieux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler dans des lieux très indépendants ou underground, ou même des lieux qui n'en sont pas, enfin, c'est-à-dire la rue. Et puis, en même temps, être à l'opéra ou au Grand Sud. Voilà, cette combinaison-là qui m'intéresse et d'aller, en effet, toucher des publics dans chacun des lieux qui public a à la fois sa singularité puisque c'est souvent des gens qui fréquentent ce lieu en question mais aussi justement le festival aide à une circulation des publics d'un lieu à un autre et j'en parle beaucoup avec Caroline Sorier par exemple, la directrice de l'opéra qui par ailleurs fait un grand travail hein, auprès des jeunes pour les fidéliser mais qui justement peut s'appuyer sur l'attitude contemporaine pour aussi booster un peu un renouvellement du public et faire entrer dans sa salle des gens qui n'iraient pas.
Voilà. Donc, pour ce qui est de la programmation, il y a bien sûr le site latitudecontemporaine.com.
Tout à fait.
Pas FR, ça ne marche pas, j'ai essayé. Et donc, à partir de là, vous avez l'ensemble de ce qui est proposé aux spectateurs. J'incite les auditeurs à s'y référer. Nous, on va suivre au maximum l'actualité de ce festival. Alors quand je dis nous, eh bien c'est une façon d'introduire dans cette émission notre journaliste qui s'appelle Sandra Mojilovic. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Alors Sandra, toi tu donc vas suivre cette actualité de ce festival et tu viendras dans chaque émission, donc pendant 3 semaines, aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après, la dernière semaine étant pour faire le bilan en quelque sorte, présenter des sons ou des idées hein, qui t'ont été amenées par ce festival. C'est quelque chose de nouveau pour toi ?
On va dire que oui et non. Donc étant déjà étudiante à l'Académie UAG, on a fait des projets, on a couvert certains événements, certaines choses, mais vraiment suivre un festival comme ça, oui, c'est quelque chose de nouveau.
Voilà, bon, j'espère que tu as autant de plaisir à le découvrir que moi je ne l'ai eu il y a 16 ans et que je l'ai encore maintenant. Donc voilà, c'est un grand moment, j'espère que tu vas pouvoir vivre et traduire à l'antenne. Donc aujourd'hui, on va présenter une artiste et une artiste que Maria Carmela Mini, vous nous avez présenté déjà régulièrement depuis quelques années, deux ans.
C'est la troisième année, je crois.
Mais oui. Donc, elle s'appelle Kubra Kademi. Bonjour Kubra.
Bonjour.
Et donc Sandra, je te laisse le plaisir de faire cette interview de notre artiste invité aujourd'hui.
Donc déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter très rapidement à notre public, à nos auditeurs?
My name is Kubra Kademi. I am from originally... Est-ce que je parle en anglais? Pardonnez-moi. Pardon, j'ai oublié. Je viens d'Afghanistan. Je suis une artiste multidisciplinaire, mais plutôt je fais performance. Et, j'habite en France depuis 2015.
Quand vous dites artiste performance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
J'utilise mon corps dans différents lieux.
Vous avez un message?
Message, c'est mon présence. Début, je suis une femme. Où je fais la performance, le lieu, l'espace. Et, il y a un lien entre mon corps, mon présence et l'espace. Alors, Je crée situation, j'attends pour réaction, les gens autour de moi, l'espace et tout. Donc,
En parlant de réaction, il y a quelque temps, il y a une vidéo de vous qui était assez virale, qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, où on vous voit à Kaboul, donc dans une armure qui... donc j'ai bien compris, à la fois était pour vous protéger, mais à la fois aussi pour montrer que vous étiez bien une femme, donc une armure qui montrait vos formes féminines. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous vouliez entreprendre par ce geste-là?
Entreprendre, c'est quoi?
Show.
Ah, ok. c'était la dernière performance où j'ai fait en mon pays, en Afghanistan, à Kaboul, où j'habitais. Cette performance, elle s'appelle Armour. Quand j'ai amené un armour sur mon costume que je suis dans, j'apparais dans ma vie quotidienne dans la ville. J'ai dénoncé le phénomène ou une pratique, je peux dire, en Afghanistan, dans mon pays, qui est harcèlement sexuel, qui est partout. Toujours, qui est pratiqué normalement, cette pratique harcèlement sexuel est très, it's part of the society now. Ça pratique beaucoup. Oui, c'est partout, mais on réagit pas. Moi-même, par exemple, quand je dis c'est partout et toujours, c'est vraiment toujours. C'est un souci de toujours, de toutes les femmes, toutes les femmes de tous les âges en fait. Petites filles, adolescents, une grande femme aussi. C'est un challenge pour les femmes qui sortent pour n'importe quoi, pour travail, pour acheter quelque chose. Quand il apparaît dans le roue, l'espace public. Mais moi-même aussi, j'ai vu il y a ce harcèlement sexuel, cette pratique est faite et pratiquée par les hommes de toutes les âges, même si les petites garçons. C'est comme un plaisir, c'est comme un jeu, mais on ne dit pas. On regarde, on voit, mais on ne dit pas, on ne réagit pas. Même si on ne dit pas non, arrête. C'est plus, pour moi, c'est plus tragique c'est quand on ne parle pas. Même si on ne crée pas. Moi-même, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai réagi, j'ai créé, mais autour de moi, qui regarde moi? Tout le monde. Les femmes et les hommes. Dans un regard qui dit « Pourquoi tu réagis ?» Ça, c'est trop abnormal. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Mais dans mon art, que normalement, je réagis de les choses que moi-même j'ai vécues. C'est plus, c'est plus difficile en même temps que de parler de choses qu'on ne parle pas, mais c'est plus réel pour moi. C'est parce que c'est mon présence. Quand je présente mon corps, c'est moi. C'est mieux si je parle de moi-même, mon histoire. C'est l'histoire de beaucoup de femmes. Nous ne sommes pas mieux que d'autres femmes dans mon pays. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous victimes, nous sommes tous... nous avons cette menace toujours d'être violée, d'avoir d'expériences de harcèlement sexuel partout, toujours. Mais ça est quelque chose que ça m'attire beaucoup de travailler ou parler. Les choses qu'on ne parle pas. Mais j'aimerais bien de parler de ça.
Et donc maintenant que vous êtes en France, est-ce que vous pensez parfois retourner dans votre pays afin de continuer là-bas, ou est-ce que vous essayez d'en parler à partir d'ici?
Pour moi, de faire... je parle de réalité, je t'ai dit, dans ma tête, dans ma vie ou dans mon histoire et tout. Mais quand je le présente... Pourquoi j'ai fait cette performance à Kaboul dans cet lieu? Parce que ça a été le lieu plus réel pour moi. J'étais harcelée là-bas plus que d'autres parties de Kaboul. L'espace réel est très important pour moi. Afghanistan est très... Afghanistan, tout mon pays, je connais par mon... avec toute mon... celle de mon corps. C'est mon racine là-bas. J'aimerais bien aller là-bas, bien sûr. Et... autant d'un artiste, pas comme je suis une femme afghane ou tout, non. Autant d'un artiste, il y a beaucoup de choses à parler là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à montrer. Et évidemment, ici aussi, je peux travailler partout. Il y a espace, il y a mon présence, il y a ma vie. Je suis engagée ici, là-bas aussi. Partout, je peux travailler, mais ce que je peux faire là-bas, c'est autre chose tellement. Mais concernant la question des femmes, situation des femmes... c'est partout pareil, moi au plus, mais partout pareil.
Est-ce que peut-être, c'est que des suppositions, mais est-ce que peut-être qu'avant de quitter votre pays, vous vous étiez peut-être dit qu'en France, c'était mieux? Est-ce que maintenant que vous êtes en France, vous réalisez comment c'est vraiment? Est-ce qu'il y a une sorte de déception par rapport à la situation des femmes, ou vous vous y attendiez?
Situation des femmes... c'est comme je dis que c'est partout pareil, nous sommes tous pareils. Oui, bien sûr, je ne suis pas toujours harcelée ici, je peux dire ça. Je suis un peu calme, Mais grâce à les féministes d'ici, je crois, je suis un peu. Je suis en train de manger les fruits du résultat des années, au siècle. De féministes qui a travaillé en France.
Année.
Oui,
c'est pas.
Si. Oui, 18e, oui, ça commençait.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Oui, c'est. Alors, je suis en train.
Il y a eu des vagues, c'est pour ça.
mais Mais pour mais encore dans le détail, non, il y a beaucoup de choses encore. Ça restait. Ça, le battre, c'est jamais fini. Non, je crois pas. Mais comme je dis, on arrive. Par exemple, ça fait trois quatre jours dans Twitter que je suis. Il y a une petite fille qui a 5 ans qui est violée par 3 hommes en Iran. Mais comme mais cette question, ça, moi je peux pas, j'ai pas dormi la nuit là, la nuit quand j'ai lu cette, ça fait 4-5 jours qu'elle est violée. Mais cette brutalité, je crois, ça, quand on entend aussi, moi je sais pas comment se répondre à cette question.
Non, mais c'est sûr qu'il y a, bien entendu, qu'il y a des différences. On ne peut pas comparer la situation des femmes en Afghanistan et la situation des femmes en France, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a encore un travail à faire pour l'égalité, ne serait-ce que des femmes ici en Europe. Et donc, ce que veut dire combat, je pense, c'est que le combat, il est à mener partout, à différents niveaux. Mais il est amené partout. Et moi-même, dans mon propre travail, très souvent, je suis... alors, c'est pas la même échelle que Kubra, évidemment. C'est un peu... étrange de me comparer à son vécu, mais quelque part, en tant que femme, je vis souvent des discriminations dans mon propre travail. Par exemple, dans des réunions, pour prendre la parole, c'est très compliqué. Donc, ça paraît être des détails. Je vais donner un exemple très concret, puisqu'il date de ce matin. La ministre de la Culture tweet l'attitude contemporaine, festival qui ouvre ce soir, bravo, etc. Quelqu'un répond, donc, c'est un truc de femelle blanche. Bon, ben voilà, on se prend ça dans la tête et on se dit, ah ouais, fou, le travail qu'il a fourni encore. Et donc, si on regarde Kubra, ça, c'est ce type de tweet, parce que je peux en parler, parce qu'elle m'en a parlé encore hier, c'est permanent. Elle reçoit ce type de message, mais tous les jours, tout le temps, avec des choses très agressives.
Ah oui.
Parce qu'elle prend des positions extrêmes sur les femmes en Afghanistan, mais aussi sur ce qui se passe en Iran quand on viole une femme, une enfant de 5 ans. Donc dès qu'on prend position, évidemment, on est face à des réactions qui sont très souvent très violentes.
D'accord, merci. Et
Alors, c'est vrai que moi, j'étais étonné il y a quelques années avec Carl Cordonnier, on en parlait tout à l'heure, c'est un photographe qui travaille sur des projets artistiques. Et on avait rencontré une personne marocaine qui aide les femmes là-bas à devenir plus indépendante. Et cette dame disait dans l'interview qu'elle considérait les hommes comme des prédateurs, comme on peut traduire ça en anglais, ou pour que Kubra comprenne.
Predators.
Comment?
Predators.
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 Yes, when you are attacked by men, you know, like an animal.
Ah, okay. Donc la personne marocaine, elle disait que pour elle, l'homme, c'est un prédateur, d'une manière globale, générale. Tous les hommes, pour elle, dans son idée, sont d'abord des prédateurs, et que l'aspect sociétal, en fait, la société, a s'organiser pour qu'il le soit le moins dangereux possible. C'est-à-dire se protéger des prédateurs.
Ah oui, ça c'est mon problème avec toutes les sociétés. Par exemple, moi j'ai tweeté que ces 3 hommes, je parle toujours de quand je parle d'un, je quand je défends une victime de violence sexuelle. Quand une petite fille qui elle est violée, il n'était pas tout et après, souvent il arrive que les gens tuent aussi après la petite fille, mais qu'il reste vivant après. Est-ce qu'elle est vraiment vivant? Après, dans toute sa vie, comment il vit? Mais quand on parle que, alors, il faut qu'il soit cette personne, il y a une, je sais pas, il y a une règle, il y a une loi pour ça. Mais il n'y a pas. Chez nous, ça n'existe pas.
Alors ça n'existe pas. C'est vrai qu'en France, on est quand même très protégé là-dessus.
Oui, ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de... Quand on ne parle pas, nous sommes avec cet animal que vous dites, cette...
quand...
Mais cette petite fille, quand elle est violée dans 5 ans, comment elle a image d'homme dans toute sa vie? Pourquoi pas on ne parle pas de ça? Okay. On protège toujours les hommes et les violeurs. En fait, toutes les sociétés, tout le monde sont avec eux. Mais pas, ils pensent pas avec la petite fille. Qu'elle dit aussi, les gens, et des fois, les gens ici disent, OK, il est vivant quand même. Alors, il est vivant quand même.
Alors, l'hypocrisie, c'est aussi que les hommes, après, refusent de se marier avec des femmes, avec des jeunes femmes qui ont été violées quand elles étaient jeunes. C'est encore double peine.
Je n'ai pas compris cette question. Ah, quelqu'un qui, quand il est adulte, aucune personne ne va marier avec...
Oui,
oui, parce qu'il n'est plus virgin.
C'est vraiment
oui, parce
terrible.
Que ça devient... Ça met la petite fille dans la position d'infidélité. Mais c'est pas, ça ne restera pas le violé, victime d'être violé. Ça change. C'est toujours la sinful, le guilt, c'est le victime chez nous.
Ouais.
Alors, mais aussi au même temps, il y a un autre, des fois, quand il y a un, on dit ça, Mahkame Sahraï, c'est-à-dire, c'est difficile, c'est pas par l'État, mais pas dans le court, mais les gens qui décident entre eux, qui...
oui, c'est une justice publique, on va dire.
Oui, enfin, justice publique, ouais. Par exemple, plutôt dans le village et tout. Et il force de marier parce qu'il sait qu'aucune personne va marier avec cette fille. Alors, c'est plus pire de... Cette fille sera torturée dans toute sa vie. Il faut qu'il viole toute sa vie. Il faut qu'il crée, qu'il donne vie d'autres enfants, je ne sais pas, d'avoir enfant avec celui.
Donc, en termes de géographie, est-ce qu'il y a des... Alors là, on a parlé de l'Afghanistan, mais je pense qu'on peut retrouver cette situation même en Inde, parfois.
Oui.
Donc, c'est à l'échelle du monde, c'est une partie importante du monde.
L'échelle du monde,
c'est... Ça veut dire la taille, c'est important, le nombre de pays où se pratique ça.
Oui, plus de monde, plus de... Plus nombre de violences.
Mais oui.
Tout à fait.
Alors là, depuis quelques années, en France, mais d'abord aux États-Unis, on a vu des personnes réagir à tous ces problèmes de harcèlement. Alors bien sûr, c'est pas dans... Peut-être qu'il y a moins de harcèlement en Europe ou en Occident que dans ces pays, mais ça existe quand même, le harcèlement, et surtout aussi comment on profite des femmes quand elles sont en situation, j'allais dire, de faiblesse ou de... Comment on, dans une certaine hiérarchie, il y a des prédateurs, pour le coup, également. Donc il y a eu tout ce qui était dénonciation là, depuis quelques mois, quelques années, presque maintenant, on dénonce ça. Est-ce que vous pensez, Kubra Academy, que ce qui est fait là, actuellement, ça fait avancer les choses? Est-ce que ça, c'est éventuellement possible en Afghanistan ou d'autres pays, l'Inde ou ailleurs?
Pour moi, personnellement, le problème, c'était que nous, on ne parle pas. Si on ne parle pas, nous sommes avec le violeur. Mais si on commence de parler, c'est-à-dire, on peut dire nous aussi, on peut créer, on peut dire, quand on dit non, on peut arrêter ça aussi. Je vais arrêter, je vais me protéger dans ma vie, je suis sûre que je vais arrêter ma fille aussi. C'est ma fille, il va arrêter, non, pas arrêter, elle va protéger sa vie, sa fille. Alors, c'est petit à petit, toutes les générations, quand on dit non, ma fille, elle va dire non aussi. On va, cet mouvement, ça va grandir. Je suis certaine que ça va changer, petit à petit. Mais...
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en Afghanistan, la société est encore en retard, ou est-ce qu'elle va rester comme ça tout le temps, ou est-ce que vous pensez qu'il y a déjà, quelque part en Afghanistan, des gens qui ont conscience de ces problèmes et qui ont peut-être l'idée qu'il y ait une solution un jour?
Ça, ça changeait déjà. Par exemple, la génération de ma mère, ce n'est pas la génération que nous sommes aussi, nous sommes maintenant. Plutôt, je ne suis pas très bien avec smartphone et technologie et tout, mais qui est jeune, plus jeune que moi, ils sont tout engagés avec... ils sont tous connectés partout. Mais aussi, je veux, avec hashtag MeToo, il y a beaucoup d'Afghans qui met hashtag MeToo, qu'ils disent aussi. Alors, nous aussi, on a commencé... Par exemple, chez nous, on ne parle pas. Quand on met, OK, j'étais touchée, par exemple, par mon frère, on ne dit pas, mais petit à petit, on a commencé de voir. Il y a des gens qui disent que ça reste quoi si je ne parle pas.
Donc, peut-être on peut rêver que dans 10 ans, la société afghane aura peut-être plus évolué que depuis 1000 ans.
1000 ans avant, vous dites ? Ah, c'est... Par exemple, maintenant, je peux dire, cette année, par exemple, 2018 n'est pas ce qu'était 2008. Donc, oui, tout à fait, ça va changer beaucoup de choses.
Bon, donc, cet espoir-là, c'est aussi le résultat d'un combat. Est-ce qu'en France, vous avez beaucoup de gens qui vous aident, qui vous soutiennent, qui travaillent avec vous, peut-être ?
En France, qui ? Les Afghans, les Français, les Européens, qui ?
Qui veut ? Est-ce qu'on peut cloisonner ? Est-ce qu'on peut dire que vous voulez être aidé uniquement par des Français ou que par des Afghans, etc. ? Je crois que tout le monde doit se sentir concerné. Et si les Afghans qui vivent en France pouvaient l'être, ça pourrait peut-être aider aussi dans ce pays.
Comme Maria, elle a dit que moi-même, encore, les Afghans ne m'ont oublié pas. Mon visage encore, c'est terrible. Je suis un peu harcelée encore par les réseaux sociaux.
Alors, je vais prendre l'idée autrement. Est-ce que des Afghans qui viennent habiter en France, je parle des hommes par exemple, est-ce qu'en venant habiter en France, ils évoluent sur ces questions-là ? Et est-ce que vous, ils seraient prêts éventuellement à travailler avec vous, à faire aussi que cette cause soit défendue par eux-mêmes également, quitte à ce que ce soit réexporté ou réimporté dans leur pays ?
J'ai pas compris la dernière partie.
C'est-à-dire, est-ce que les Afghans qui vivent en France changent aussi de pratique par rapport aux Afghans qui vivent en Afghanistan et qui ont ces façons de se comporter que vous dénoncez ? Est-ce que vous ressentez un effet positif au fait qu'ils viennent en France ? Est-ce que ça change pour eux leur façon de considérer la femme, par exemple ? Je parle des Afghans ou des Indiens, peu importe, c'est un exemple.
Moi, je donne cet exemple parce que moi aussi, je suis étudiante à Paris, à la Sorbonne. Mon livre, et j'admire beaucoup, ça m'a donné un peu choc culturel en fait, que le système scolaire, c'est très, comment on dit, c'est très neutre dans une manière, mais c'est très diversité. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est un livre que pour la langue, mais quand même, il y a beaucoup de richesse de culture française dedans. Il y a un chapitre pour les nourritures, un chapitre pour beaucoup de choses.
C'est un mode d'emploi de la France.
C'est vrai. Mais moi, j'admire beaucoup. Mais... Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis certaine qu'elle veut aussi. Mais je suis une femme et je suis une artiste. Je suis très libre. Mais pour eux, c'est un peu différent parce que dans mon pays, chez nous, il y a toute son misogyne, toute son patriarcat. Tout est faveur des hommes. Ça vous donne un peu. Il faut que je dise ça. Parce que ça donne un peu de. Comment on dit ? Fail.
Tomber, ça fait tomber.
Tomber que ce qu'ils ont vécu, mais c'est pas ici.
Moi, je peux essayer de répondre un peu parce que j'ai vécu un peu des expériences en accompagnant Kumbra dans différents projets. Et par exemple, il y a eu un moment très très fort l'année dernière puisque Kumbra travaillait avec des jeunes justement afghans à la LAFPA. Donc je disais, mais quelle expérience tu en tires, etc. Et elle me dit, mais Maria Carmela, tu peux même pas imaginer ce que ça veut dire pour moi que ces jeunes puissent me parler comme un être humain à part entière, que je peux les toucher, que eux peuvent me toucher sans qu'il y ait de choses sexuelles derrière ou
équivoque.
Oui, équivoque en effet. Donc c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc je pense qu'en effet, Kubra parlait de choc culturel et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est comme si en fait elle apprenait. C'est même pas un nouveau langage, c'est une nouvelle manière d'être. C'est comme si elle renaissait quelque part où elle découvrait tout. On a travaillé ensemble ce week-end sur comment, par exemple, l'État français fonctionnait dans sa mise en place de la démocratie. Alors, quel rôle a le président, quel rôle a le gouvernement, et en lui apprenant ça, je me rendais compte à quel point elle devait assimiler des choses qui nous paraissent évidemment très évidentes, mais qui pour elle, c'est un nouveau monde en fait. Donc, c'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Et donc, il y a quelque chose de ça. Et c'est vrai à la fois pour Kubra, mais c'est aussi vrai pour les Afghans ou les Indiens qui arrivent en France.
Alors, la question, si je devais la préciser, est-ce qu'on a un intérêt à inviter en France des Afghans dans le cadre, par exemple, de projets Erasmus pour leur expliquer qu'il n'y a pas que leur façon de vivre qui existent et que d'autres sont peut-être à découvrir et à mettre en œuvre dans ce domaine-là.
Moi, j'ai demandé déjà ça à mes profs. Pourquoi il n'y a pas Erasmus échange avec
Afghanistan bien,
j'ai demandé déjà, mais elle dit non.
Ah, faudrait trouver...
Il faut, pourquoi pas. Il faut qu'il soit cet échange.
Alors Sandra, qui se prépare à une brillante intervention Erasmus dans un autre pays du monde, peut-être tu veux intervenir sur ce sujet.
C'était pas vraiment par rapport à l'Erasmus, c'était par rapport à ce qui avait été dit juste avant, sur le fait que des Afghans viennent et tout ça. Et ça m'a fait penser à une conversation que j'avais eue avec une amie qui me disait que le féminisme... Donc moi aussi, je suis féministe et tout ça, et c'est bien. Mais il n'y a pas qu'une seule forme de féminisme. C'est-à-dire que le féminisme est un peu une pensée qui est née de base en Occident, mais que maintenant, ça se développe aussi et que ce n'est pas forcément une pensée qu'il faudrait imposer aux autres, comme en tant que Christophe Colomb. Petit colon blanc, on arrive et qu'on dise à d'autres que voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Donc c'est-à-dire que certes, les Afghans peuvent venir chez nous et voir comment nous on fonctionne, mais c'est que nous aussi, il faut qu'on comprenne la culture qu'il y a derrière eux et le féminisme s'adapte. Donc je pense que ça vient aussi un exemple quand on parle de la question du voile. Et que nous, on va tout de suite dire le fait que les femmes se voilent, c'est pas bien, etc., etc. Sauf qu'il y a des femmes qui veulent, elles, pour leurs propres raisons, qui ne sont aucunement le fait qu'elles se soumettent à un homme ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'elles le veulent, parce que pour elles, c'est ce qu'il faut faire. Et elles se disent féministes, et pourtant, elles restent voilées. Donc, après, je pense que on va pas dire modéré, mais il faut comprendre la vision des gens et que accepter le fait qu'il y ait plusieurs formes de féminisme et que ce que nous, on ferait, nous par exemple en France, qui nous semble évident, pour d'autres ne semble pas évident, mais ce que eux font, enfin ça faut prendre le fait que ça va dans les deux sens. Je ne sais pas si j'étais claire.
Ça s'appelle la tolérance, en fait. Voilà,
c'est ça.
oui, tout à fait. En effet, il faut être tolérant tout le temps. Bien sûr que ça va dans les deux sens et que je parlais de ce que découvrait Kubra, mais je peux tout à fait dire ce que moi, je découvre de ce pays, l'Afghanistan. Et ça m'enrichit pareillement, c'est-à-dire que ça soulève des questions, ça va chercher des choses en moi sur lesquelles je dois me positionner. Et ça, c'est très fort, évidemment. Bien sûr que l'idée, c'est d'être tolérant et d'être à l'écoute. Tout à l'heure, je voulais réagir, je ne l'ai pas fait, mais sur la notion de... prédateur, je trouve que c'est un mot qui me fait peur, en fait.
Moi aussi, oui. Ça m'a effrayé.
Et, oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup... je pense que les hommes ne sont pas des prédateurs, en fait. Et que tout ça est très culturel, en fait. Et qu'à partir du moment où les gens sont éduqués, à partir du moment où il y a des règles qui sont posées... tout le monde est capable de s'adapter à une manière d'être et de vivre. Donc voilà, je rassure mes frères, parce que j'ai 5 frères et ça se passe super bien, en fait.
Alors, puisqu'on parle un peu de voile, là, je voudrais soulever une question, mais on ne va pas la résoudre aujourd'hui. Hein. Est-ce que les pays dans lesquels on met le voile d'une manière systématique, ce n'est pas une façon de se protéger des prédateurs dont on parlait? Est-ce que ce n'est pas un système comme ça? Est-ce que c'est pas conçu un peu comme ça? C'est-à-dire, si tu veux être protégé, faut pas qu'on te voie. Est-ce que ça peut encore être un sens?
Ça c'est... Tous les pays musulmans ne sont pas pareils. La répression ne s'est pas appliquée pareil. Mais moi aussi, j'ai vu en France, les femmes, elles sont musulmanes, elles sont féministes, mais elles ont le voile. Pour moi, j'ai l'impression que ils nous ont pas repressés, je crois. Mais nous, par exemple, moi-même, je dis toujours mon exemple, mais moi, j'étais forcée. J'étais forcée. Chez nous, j'étais forcée. Mm-hmm. Mais ça a été... Elle dit aussi, la raison, c'était quoi? Pour nous provoquer les hommes. Mm-hmm. Mais ça a été logique, pour ne pas provoquer les hommes. Alors, quand même, il y a la question que pourquoi ils vont provoquer de voir quelque chose de moi. Mais alors, ça aussi...
En France et aux États-Unis, hein, il y a une étude qui a été faite sur les femmes qui sont violées. Mm-hmm. Et il est prouvé, et d'ailleurs il y a une exposition qui tourne, je pense qu'elle va être présentée bientôt aussi sur l'île, hein, ou du moins à Paris, ça l'a été, il est prouvé que 80% des viols ont été faits sur des femmes qui étaient habillées très normalement. Des fois, on dit oh, attention, vous êtes habillée, ça peut attirer, etc. Mais là, justement, non. Il n'y a pas de rapport entre le viol et le fait que la personne soit attractive au sens. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même très bizarre, ces comportements.
Ça, c'est aussi, je peux vous dire l'exemple de cette petite fille. Petite fille qui a 5 ans. Qu'est-ce qu'il a de provoquer un homme, 3 hommes en même temps? Cette brutalité, ça vient de... Je ne sais pas où, ça vient de toutes les sociétés, pas toutes les sociétés, certaines sociétés qui donnent cette liberté. Quand il n'y a aucune personne qui pose cette question, je sais pas, il arrive, il y a cette petite fille, il n'a rien de chose à montrer qui a...
Une dernière question. En France, on a considéré là plus ou moins que l'âge de 15 ans pour les filles, ça mettait quelques hommes à l'abri, on va dire, de relations. Est-ce qu'en Afghanistan, il y a un âge pour se marier, un âge pour... Enfin, il y a des années précises?
Non. Plus petit, mieux. Ça, c'est quelque chose que moi, j'entends de toute ma vie. Plus petit, mieux. Parce que tu sais moins et tu vas contrôler bien. Et, bah oui. Mmh. Moins éducation, évidemment. Mmh. T'es pas à l'école. Plus petit, ma mère elle-même, elle était mariée quand elle a eu 12 ans.
Donc, oui, c'est à peu près l'âge. En Inde aussi, c'est à peu près l'âge à laquelle les femmes, tous les cas, sont destinées. On leur choisit leur mari à l'âge de 18 ans.
Donc, effectivement, Koubra, merci d'avoir amené cet éclairage qui peut encore surprendre, même nous. Je pense que des propos là qui peuvent encore nous surprendre, qui donnent une idée aussi de tout ce qu'il y a à réaliser dans le monde pour que des choses puissent évoluer favorablement. Et puis l'importance de ton art, Koubra, de ce que tu peux à la fois témoigner et montrer comme moment de réflexion et peut-être d'action.
Je n'ai pas compris la question.
Je vais dire, c'est pas une question, hein, c'est de dire le fait que tu présentes sur scène des situations, ça fait réfléchir les gens et que ça, c'est quelque chose qui va faire avancer des choses. Tu comptes que les gens évoluent, changent. Change their minds.
Par ton travail, oui.
Si
par ton
travail.
Si toi, tu amènes le spectacle, tu vas faire changer la tête.
Ah oui.
Oui, c'est l'idée.
Pourquoi les gens sont très, très en colère? Oui, évidemment.
Voilà. Et est-ce que tu penses, au-delà des spectacles, où il y a le public, on va dire, qui est concerné, mais est-ce que tu penses aussi que les médias, est-ce que tu penses faire des films pour plus largement encore, pourquoi pas présenter des films en Afghanistan ou je ne sais pas, hein, c'est possible
ici? Les choses que je fais.
Que tu peux produire ici et présenter là-bas, peut-être sur les réseaux sociaux là-bas.
Je fais ça. Je fais ça. Je suis régulièrement très active et je fais. Oui, mais pourquoi c'est les gens ne m'ont oublié jamais, je crois, à chaque fois.
Et donc, tu penses que là-bas, d'autres femmes vont faire la même chose et que ça va améliorer la situation?
Ah oui. Oui. Évidemment, il faut que quelqu'un qui avance.
Voilà. Tu es devant et ça va suivre. Tu es le drapeau. Le drapeau.
Ah oui, je vous moi-même, dans cette question, je vous moi-même seule, mais en même temps, derrière, je sais que je ne suis pas toute seule.
Voilà.
En même temps.
Eh bien, merci d'être venue témoigner de ce beau projet artistique, mais aussi qui est évidemment nécessaire. Et puis, on espère que ce festival, on peut peut-être dire quand on verra Kubra.
Alors, c'est le 13 juin à la Maison Folie d'Oisem. Donc, c'est une sortie de résidence puisque Kubra prépare un projet pour l'automne qui sera présenté dans un festival à Rennes au TNB. Et donc là, elle travaille à la Maison Folie d'Oisem pour faire de la recherche et ce sera une sortie de résidence. Donc, le 13 à 20h 15. Voilà.
Bien, voilà. Merci à vous trois. On se retrouve ce soir 18h30 pour l'inauguration et ensuite pour les spectacles qui nous conduisent jusqu'au moins au 20 juin.
24.
Oui. Donc la dernière émission dont on va traiter, c'est le 23 ici.
Hein. Tout à fait, oui.
Et donc l'occasion de revenir sur ces événements et puis sur l'actualité et puis sur les invités qui viendront et les reportages que Sandra va nous réaliser. Merci à toutes et à ce soir.
Merci.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au